Virginie, tu vas nous lire le premier.
À quoi bon les arts s'il n'était que le redoublement et la contre-épreuve de l'existence ? Et, bon Dieu, nous ne voyons que trop autour de, nous la tristesse et la triste désenchanteresse réalité. Laissez-nous rêver que parfois on parut des hommes plus forts et plus grands, qui furent des bons et des méchants plus résolus. Cela fait du bien. Si la valeur de notre vrai nous poursuit dans l'art, nous fermerons le théâtre et le livre pour ne pas raconter, pour ne pas le rencontrer deux fois. Alfred de Réflexion sur la vérité dans l'art, 1827.
T'as vu que le texte était court, ça veut dire que t'as le temps de le lire avant de le lire. D'abord, hein, tu es censé l'avoir lu tout à l'heure.
Oui, je l'ai
lu. Deux, avant de prendre la parole et de le lire, t'as intérêt à le parcourir des yeux, de façon à ne pas te planter 5 fois dans la lecture comme tu viens de le faire. Laure, tu vas essayer de le lire, à toi.
À quoi bon les arts s'ils n'étaient que le redoublement et la contre-épreuve de l'existence ? Eh, bon Dieu, nous ne voyons que trop autour de nous la triste et désenchanteresse réalité. Laissez-nous rêver que parfois on parut des hommes plus forts et plus grands, qui furent des bons et des méchants plus résolus. Cela fait du bien. Si la pâleur de votre vrai nous poursuit dans l'art, nous fermerons ensemble le théâtre et le livre pour ne pas le rencontrer deux fois.
D'accord. Tu as vrai qui est écrit en majuscule imprimerie et dans ta lecture, on ne l'a pas entendu. Hein? Donc il était souhaitable peut-être que tu le fasses ressortir. Pour la première phrase, c'est une interrogative. Hein? Donc, essayons, hein? Même si ça n'est pas une vraie question, hein? Si tu regardes, hein, c'est pas vraiment une question. À quoi bon les arts s'ils n'étaient que le redoublement et la contre-épreuve de l'existence ? D'accord ? Hein ? C'est une interrogative. Bon. Pour l'exclamative d'après, tu as fait un effort. Hein ? C'est-à-dire que ça avait un peu une allure d'exclamative. Eh, bon Dieu ! Nous ne voyons que trop autour de nous la triste. Alors, même chose, tu accentues hein, sur les notions que tu veux faire passer, que tu trouves importantes. La triste et désenchanteresse. Alors là, pareil, le mot est compliqué, il est long. Prends ton temps pour le lire. Hein, je veux dire, t'es pas obligé de le dire à 100 à l'heure et te planter sur la lecture. C'est compliqué, tu ralentis. C'est pas grave du tout. Hein, t'es pas tenu de lire vite. Nous ne voyons que trop autour de nous la triste et désenchanteresse. Hein, je sais que c'est périlleux, donc comme un cheval, je prends mon temps, je ralentis avant l'obstacle. Hein. Voilà. Et je cale bien le cheval en face. Et tout, de l'obstacle. Je ne prends pas de travers. Surtout s'il y en a 3 à sauter à la suite. Saute 1, puis 2, puis 3. La triste et désenchanteresse réalité. Là, à la limite, on devrait marquer un petit temps d'arrêt, puisqu'on a décroché 3 petits points, ce qui veut dire qu'on nous a coupé une partie du texte. Or, laissez-nous rêver, là, on entend la chanson, hein. Bon, désolé, comme ça. Laissez-nous rêver. Bon, je ne vais pas le chanter, je sens très mal. Hein, mais bon. Laissez-nous rêver que parfois, tu vois, tu prends, le texte est court, t'en profites pour l'articuler. Hein, et puis, côté discours en chair du curé, quelque chose comme ça. En faisant résonner les murs. Laissez-nous rêver que parfois on parut. Et il laisse en suspens comme ça. Hein, que parfois on parut des âmes Tiens, quels hommes ? Que parfois ont paru des hommes plus forts et plus grands, qui furent des bons et des méchants plus résolus. Alors si vous pouvez réparer le je sais pas quoi la note qui change de travers, vous faites.
Oui, on essaye, mais on n'arrive pas.
Il faut démonter tout le piano.
On peut démonter tout le piano, si on fait une bêtise après.
Non mais par contre, faire pression pour qu'il le remette en état, ça serait bien.
D'accord.
Il faut qu'on mette le nid qui marche pas. Voilà, il y a une note qui part à travers le marteau, il part comme ça.
Oui. Même les pédales
vont plus. Voilà. Donc si vous pouvez faire pression pour qu'il le remette en état,
tiens,
mouchoir. Voilà. Ça, c'est les super cracks de ce monde de l'an dernier. Voilà. J'ai oublié de demander s'il se présentait au concours général, mais ça va être trop tard. Mais il y en a qui commencent à prendre le temps quand même. C'est déjà revenu. Ça marche pas. Il y a personne qui s'est décidé à présenter certains d'entre vous au concours général.
Non.
C'est vraiment dommage, quoi.
Mais j'en parlerai à Céline.
Oui, mais c'est peut-être un peu tard, quoi, parce qu'on en a parlé en décembre. Et ça, c'est dommage, quoi. Mais en tout cas, si c'est pas fait cette année, c'est à la limite peut-être pas impossible l'année prochaine, il faudrait y penser, parce qu'il y a quand même de la classe dans l'an dernier, il y en a bien deux ou trois, si c'est pas plus, qui auraient pu être présentés.
Donc, mais Céline moi, et moi, sommes inscrites au conseil d'administration, enfin, elle est titulaire, je suis suppléante, donc déjà je parlerai du piano.
Du piano, d'accord. Allez, bon piano.
Merci beaucoup.
Vous avez des partitions ou pas?
Non, on ne savait pas que madame...
Bon, alors, tu regardes dans le cabinet de français.
D'accord.
Au-dessus, il y a des partitions.
D'accord. Oui,
vous servir.
Merci. Hein?
Plus fort et plus grand qui furent... Alors, plus résolu, ça veut dire quoi? Des bons et des méchants plus résolus. D'abord, des bons, on sent quand même le compliment, le mélioratif, des méchants. Vous voyez comment ils sont les artistes. Ils n'aiment pas seulement les bons, mais ils aiment aussi les méchants, du moment que c'est des super méchants, ou des super bons. C'est-à-dire, en gros, qui sortent de l'ordinaire. Hein, qui sortent, et justement, on a un petit texte, je ne sais pas si on aura le temps tout à l'heure, de SE, qui vous évoque un peu l'homme ordinaire, justement. Hein, et même le Dieu ordinaire, c'est assez amusant. Qu'il appelle, je ne sais pas, il doit l'appeler Koussikoussa, ou quelque chose comme ça, le Dieu Koussikoussa, ou l'homme Koussikoussa. Donc si nous reste du temps, si je bavarde pas pendant trop longtemps, et on verra ça tout à l'heure. Donc ici, plus résolu, ça veut dire comment dire ? Qui ont un niveau de bonté ou de méchanceté excessif, quoi. Mais pour profiter du terme résolu, il faut dire qu'ils manifestent leur force de caractère, qui ont des caractères exceptionnels, soit bon, soit méchant. On aime bien les méchants aussi. Hein. Et qu'ils soient terriblement méchants, le bon, la brute et le truand, hein, en western. Hein. Voilà. Alors, laissez-nous rêver que parfois ont paru. Alors, là, il y a une référence au réel, d'une certaine façon. Hein, parce que il y a quelquefois eu vraiment dans la vraie vie. Et qu'on va en parler de ces héros qu'on va transfigurer sous des noms fictifs comme Ulysse, comme etc. etc. Hein, ont paru des hommes plus forts et plus grands, qui furent des bons et des méchants plus résolus, cela fait du bien. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même, par rapport au réel, une position de désillusion, désabusée, puisqu'il dit au départ, laissez-nous rêver que ça existait, des surhommes, soit dans la bonté, soit dans la méchanceté. Il dit, ça fait du bien, mais c'est sous-entendu implicitement, mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas existé. Nous, les artistes, on va vous en fabriquer des surhommes. Hein? Mais ça n'existe pas dans la vie, et c'est bien triste que ça n'existe pas. Hein? C'est ça qui est sous-entendu là-dedans. Hein? S'il n'a pas l'heure de notre vrai, tu vois, les caractères, les majuscules, imprimerie, mais attention, je les fais comment ? Ironique. Hein, on pourrait croire que c'est notre vrai. Qu'on prend au sérieux cette grandeur du vrai, parce que c'est aussi une valeur. Vous savez pourquoi les romans autobiographiques ont tant de succès ? Parce que on en a marre des histoires inventées, parce qu'on sait qu'on peut inventer n'importe quelle histoire, quelqu'un qui saute par-dessus les montagnes, etc., dans un récit, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et maintenant, avec les effets spéciaux au cinéma, ou en vidéo, on peut tout faire. Et à partir du moment où on peut tout faire, bah, ça n'a plus d'intérêt, quoi. C'est trop facile. Hein? Bon, déjà, avec le cinéma, quelqu'un qui plonge de 10 mètres de hauteur dans l'eau, on pouvait le faire remonter. De la piscine jusqu'au plongeoir à 10 mètres de haut, il suffisait de faire tourner le film à l'envers. Donc ça fait longtemps qu'on peut faire des miracles avec le cinéma. Hein. Donc voilà, d'où l'intérêt pour les récits autobiographiques ou les biographiques tout court. Parce que c'est du vrai. Sauf que, Maupassant vous dira dans la préface de Pierre et Jean, on ne peut pas, dans un récit, mettre le vrai, parce que le vrai c'est trop compliqué, c'est trop long, il n'y a pas moyen, on est obligé de choisir des éléments. Hein, quand vous racontez quelque chose qui s'est vraiment passé, ben vous faites nécessairement des choix, parce qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas te dire qu'il avait exactement 3,675 milliards cheveux sur la tête, avec des nuances de couleurs, etc. Vous voyez, on peut pas, le vrai, on ne peut pas le reconstituer par le récit, c'est pas possible. Hein? On peut faire imaginer quelque chose qui... Hein, donc voir le tableau de Magritte, par exemple, ceci n'est pas une pipe. Qu'est-ce que vous avez sur ce tableau ? Une pipe. Ben, c'est pas une pipe, c'est un tableau. C'est une image de pipe. Si vous essayez de fumer cette pipe-là, vous aurez bien du mal à mettre le tabac à l'intérieur. Et encore plus de mal à la fumer. Hein? C'est vous dire que l'image n'est pas l'objet. Hein? L'image n'est pas l'objet. Et vous n'avez la notion de l'objet que quand, et que partiel, et que quand vous touchez l'objet. Tant que vous n'avez pas touché l'objet, vous n'êtes même pas sûr qu'il existe en tant qu'objet. Hein, ça, j'ai oublié le titre de ce film-là, qui est si amusant, où vous savez, le héros qui se débat dans un tas d'histoires, et à un moment, vers la fin du film, il part sur un bateau, sur un petit dériveur, il part sur la mer, comme ça, tout droit. Et au niveau de l'horizon, pas très loin, se tape dans un décor. Il joue, il vit dans un décor. Et là, dans ce décor, cette espèce de mur qui sert de décor à sa mère, là, qui n'est qu'une mare avec une limite, il y a une porte qui s'ouvre et derrière, il y a des réalisateurs de télévision. On était en train de filmer ses aventures. Voilà. Comme quoi, on n'est pas certain que ce qu'on n'a pas été touché existe vraiment, ou c'est peut-être un décor. Là, vous regardiez le canigou hier ou avant-hier, il y a des moments où j'ai l'impression que c'était un décor. C'était... Bon, ceux qui ont déjà marché sur le canigou, ils savent bien que il existe quand même. Hein. C'est pas un morceau de tissu qu'on a mis au fond du ciel. Mais, voilà, il y a toujours un peu cette incertitude qu'on peut prolonger bien plus. Hein. C'est-à-dire que, philosophiquement, est-ce qu'on existe ? Est-ce que les autres existent ? J'en suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression d'exister, mais je suis même pas sûr. La seule chose dont je suis sûr, c'est que j'ai l'impression d'exister. Voilà, je suis sûr d'avoir l'impression d'exister. C'est tout. Vous savez, dans vos rêves, vous êtes sûr toujours que c'est vrai. Il n'y a qu'au réveil que vous vous dites, ah ben mince, c'était un rêve. Enfin, on revient à la fleur bleue d'une certaine manière. Voilà. Si la pâleur de notre vrai nous poursuit dans l'art, alors bien entendu que dans la lecture, vous ferez un contraste entre le vrai ironique et l'art respectueux qu'on est en train de glorifier. Hein, l'au-delà de l'éloge, ça s'appelle la glorification. Là, il est bien entendu l'auteur Vigny, qui est un écrivain romantique du 19e, hein, Alfred de Vigny, La mort du loup, parmi les textes les plus célèbres, hein, mais aussi Servitude et grandeur militaire, dans La mort du loup qui se termine par, sur le stoïcisme, fais énergiquement ta longue et lourde tâche, et puis après souffre et meurs sans parler. Vous voyez l'idéal romantique de Vigny, qui est très proche des stoïciens de l'Antiquité, des philosophes stoïciens de l'Antiquité. Mais, comme il écrit Servitude et grandeur militaire, on peut comprendre le rapport, hein, avec, à la limite, avec un idéal militaire. J'en profite pour vous dire, parce que vous avez trouvé, et vous m'avez remis sur vos copies, à propos du romantisme qui a un rapport à la religion, oui. Hein, et ça va de pair avec ce que je vous ai dit par ailleurs du romantisme, que ça n'est pas... Ce mouvement est peut-être un peu révolutionnaire en ce qui concerne l'écriture, mais il n'est certainement pas politiquement, en tout cas au départ. Hein, il n'est pas politiquement révolutionnaire, il est politiquement réactionnaire. Il est politiquement contre-révolutionnaire, il est contre la Révolution française et surtout dans le domaine religieux. Hein, c'est-à-dire que la Révolution française nous dit, nous remplace, alors on n'efface pas complètement Dieu, on remplace Dieu par l'être suprême, hein, mais on éloigne quand même d'une certaine manière la religion et le pouvoir du clergé, hein, et les romantiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, voir par exemple Chateaubriand, il nous écrit le génie du christianisme, hein, c'est-à-dire qu'il nous fait une apologie de la religion chrétienne. Hein, donc, en ce qui concerne en tout cas la religion, les romantiques sont, alors, non seulement pour la religion, mais vous l'avez dit aussi, ou vous l'avez trouvé, du côté du mysticisme, hein, c'est-à-dire que une partie très, comment dire, très intellectuelle et très profonde de la religion, hein, pas une religion superficielle, mais une religion qui vous prend l'âme en entier, en quelque sorte, qui vous prend l'esprit en entier. Alors, si la pâleur de notre vrai nous poursuit dans l'art, c'est-à-dire, si quand on va au théâtre, parce qu'il parle du théâtre, il me semble bien. Hein. Mais dans le roman et le livre, il nous dit après, si dans les livres ou au théâtre, on nous donne que cette image triste de la réalité, ben c'est pas la peine d'aller au théâtre, c'est pas la peine de lire un livre. Sous-entendu, et vous comprendrez, ce qu'on cherche dans un livre, c'est l'évasion, mais pas la simple évasion pour échapper à la banalité du vrai, mais quelque chose qui vous fasse grandir, en quelque sorte. Hein. L'évasion vers le haut, pas l'évasion vers le bas, hein. Pas l'évasion vers plus de médiocrité. Hein. Bon. On était donc en train de lire le premier. On va faire lire Julien le second.
Le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins pour par journée, pour énumérer les multitudes d'incidents insignifiants qui emplissent notre existence. Un choix s'impose donc, ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité.
Bon, je suis désolé, j'ai un peu défloré, puisque j'en ai parlé, hein, du texte de la préface de Pierre et Jean. Tu lis pas si mal, Julien. Néanmoins, il faut tu te mets un peu derrière, quoi. Tu glisses un peu en disant, on va se débarrasser de ce problème, quoi. Il faut être plus présent. Hein. Le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante. Alors là, vous avez, hein, parmi les choses remarquables ici, le début d'une période oratoire. À quoi est-ce qu'on reconnaît le début d'une période oratoire ? On va passer des termes de la dialectique qui sont binaires, c'est-à-dire je mets deux adjectifs ou deux membres de phrase à quelque chose qui est ternaire. Hein, on passe de deux à trois. Il est bon et intelligent. Là, on est dans le système binaire. D'accord ? Il est bon, intelligent et paresseux. Là, on est dans le ternaire. Pas forcément dans l'éloge. Hein. Bon. Là, vous avez une vision plus complète, plus saisissante, plus probante. Hein? Donc on est en train d'enfler la période en quelque sorte. Et c'est intéressant par rapport à ce qu'on va dire après. Hein, par rapport à ce qu'on va dire après. Mais bon, je ne veux pas le bousculer. Je veux dire avant, justement. Raconter tout serait impossible, etc., etc. Bon, on en vient à la question, hein, c'est-à-dire à quelle notion renvoie chacun de ces deux textes. Vous avez trois possibilités, bon, oui.
Dans le texte A, Alfred de Vigny perçoit le destinataire parce qu'il s'implique dans le texte.
C'est parfait, hein, ça. C'est un bon début en tout cas. Hein. On est dans persuader, premier détail, parce qu'il s'implique. Il s'implique. Alors maintenant, tu as dit s'implique, il faut le prouver.
Il fait appel à la sensibilité du lecteur aussi.
Oui, mais
il s'implique,
voilà, c'est ça qu'il faut que tu donnes l'argument, je veux dire. Hein, il s'implique avec quoi, hein, c'est où? Où est-ce qu'il s'implique? À quel moment?
Nous ne voyons.
Laissez-nous rêver. Nous, c'est qui?
Ben lui et le lecteur. Si c'est le lecteur.
Moi, je dirais les artistes, là.
Ouais.
Parce que ça ne s'adresse pas. Hein, j'ai pas le sentiment que ça s'adresse au lecteur. Laissez-nous rêver, nous artistes. Hein, ou nous n'importe qui. Laissez l'homme rêver. Hein? Et dans ce cas-là, le lecteur est en partie impliqué. Nous, sauf les casseurs de rêves, en quelque sorte. Voilà. Et ailleurs, tu as, s'il n'a pas l'heure de notre vrai, c'est tout le monde, ça. Ça implique le lecteur, ça implique... voilà. Donc ce nous et ce notre, moi j'ai... Ah pardon, s'il a... Non, s'il n'a pas l'heure de votre vrai. Alors là, il implique le lecteur, pardon.
Hein? Et après, il y a nous.
Hein? Nous, c'est ceux qui ne sont pas les casseurs de rêves, et en particulier... Non, c'est quand même des lecteurs, puisque après il dit « nous poursuit dans l'air, nous fermerons le théâtre alors, nous fermerons ensemble ». C'est à la fois
les lecteurs et les artistes.
Les auteurs, les artistes et les lecteurs. Hein. C'est auteur, spectateur. On fermera ensemble, nous dit-il. Là, on sait exactement. Hein. Le théâtre et le livre, c'est-à-dire l'auteur ferme le livre et le lecteur ferme le livre. Ça me fait penser à Montaigne, le début des essais, quand son avertissement au lecteur, quand il dit « ce livre-là, je ne l'ai pas écrit pour vous, pour toi lecteur, je l'ai écrit pour mes amis, alors tu vas fermer ce bouquin, et puis adieu. Hein? » Oui, bien sûr qu'il compte bien que le lecteur va continuer de lire, et de lire avec d'autant plus d'intérêt qu'il a le sentiment de regarder par le trou de la serrure, puisque... l'auteur vient de lui dire « ferme le bouquin, regarde pas, c'est pas pour toi hein ». Donc il a l'attrait du fruit défendu, c'est un argument publicitaire simplement, enfin, une astuce hein, de présentation, d'introduction. Fermerons ensemble, voilà. Donc implication, hein, implication du locuteur hein, et implication du destinataire. On est là à convaincre. Et également, implication à travers les questions. Hein? La première question, point d'interrogation, on implique en questionnant, même si ces questions sont des questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions pour lesquelles on n'attend pas de réponse, et même des questions qui sont de fausses questions. Hein? C'est-à-dire que dit cette première question, à quoi serviraient les arts s'ils n'étaient que le redoublement de... Ben, ça nous dit en clair, les arts ne serviraient à rien s'ils n'étaient que. Donc en fait, c'est une affirmation, ça cache une affirmation. Hein? Ça cache une affirmation. Alors, ensuite, implication ou appel au sentiment, dans les remarques, dans les exclamations derrière, hein, et même d'une certaine façon... quelque chose qui peut nous apparaître comme une grossièreté ou un juron, hein, est assez étonnant. Moi, je ne le verrais pas comme un juron. Hein. Vous savez que bon Dieu, normalement, c'est un juron. D'accord ? Surtout si vous ajoutez un complément. Bon Dieu de ceci ou bon Dieu de cela. Hein. Mais là, j'ai l'impression que quand il dit bon Dieu, c'est Dieu bon. Hein? Simplement, c'est respectueux vis-à-vis de Dieu. Hein? Et connaissant fini également. Hein? Mais on peut le retenir comme une interjection, simplement marquant l'émotion. Hein? Alors, on implique l'auditeur ici également dans laissez-nous. Hein, qu'est-ce que c'est que laissez-nous ?
Il dit vous, nous laissez.
Oui, et puis c'est un impératif et ça s'appelle une injonction. D'accord ? Hein, l'utilisation de l'impératif, ça s'appelle une injonction, ça veut dire enjoindre, c'est donner un ordre. Hein ? Laissez-nous rêver. Alors néanmoins, j'ai parlé tout à l'heure de période oratoire, pour l'instant, on a bien le sentiment que toute l'articulation de ce petit passage, c'est une articulation binaire. Hein? C'est-à-dire que vous avez regardez depuis le début, hein, depuis la première ligne, redoublement et contre-épreuve. Après, vous avez triste et désenchanteresse, d'accord ? Après, vous avez plus fort et plus grand. Après, vous avez bon et méchant, d'accord ? Vous avez asymétrie, notre vrai et l'art, d'accord ? Et le théâtre et le livre. Vous voyez à quel point, et puis, t'as l'explication à la fin, hein, de cet aspect binaire du discours. C'est pour dire, je ne veux pas que l'art soit le miroir, le reflet de la réalité. Hein, vous voyez que cette construction binaire, elle se justifie par le propos. Hein, je ne veux pas retrouver dans l'art une copie de la réalité. Donc c'est sur deux. C'est l'un qui représente l'autre. Hein? Donc, cette construction binaire, elle est très largement justifiée par cette idée qu'on ne veut pas que l'art soit un double de la réalité. Bon, la question, c'était donc persuader pour celui-là, et pour le suivant... Bon, ça, si c'est pas blanc, c'est noir, disait Toto, qu'on appelait comme ça parce qu'il disait c'est automatique, hein, mon ancien prof de maths, il disait toujours si c'est pas blanc, c'est noir. Sauf que le gris existe, il nous semble, hein, puis même les couleurs. Mais bon, il a peut-être depuis découvert le gris et les couleurs. C'est ce que Pascal, le philosophe du XVIIe siècle, a appelé l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Hein? L'esprit de géométrie, ça reviendrait à si c'est pas blanc, c'est noir. C'est-à-dire une espèce de... On tranche les idées, en quelque sorte, et l'esprit de finesse, où on cherche les nuances et les contradictions. Voilà. Donc, le matheux, le littéraire, vous pouvez le faire comme ça, esprit de géométrie, esprit de finesse. Mais il y a des matheux qui sont très fins, vous n'en faites pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de risque. Il y a quelquefois des matheux qui sont plus fins que certains littéraires. Bon. Donc, on cherche, comme Virginie l'a fait, dans le deuxième texte, ce qui nous montre que c'est convaincre plutôt que persuader. Quels indices ? Oui ?
Utiliser une logique.
Par exemple ?
Raconter tout, c'est impossible, car il faudrait un volume de...
Bon, alors là, il faut dire argument. D'accord ? Il utilise des arguments, ce qui a été dit tout à l'heure, il me semble. Et puis... Bien sûr, tu ne te contentes pas de dire il utilise des arguments, mais tu donnes un exemple d'argument derrière. Hein? C'est-à-dire que là, comme tu viens de le faire. Hein? C'est-à-dire, raconter tout serait impossible, pas seulement ça. Hein? Hein? Parce que ça, raconter tout serait impossible, l'explication, elle est derrière. Hein? Moi, je serais tenté de dire argument plus explication, quoi, ou justification de argument de l'argument, tu vois ce que je veux dire. Hein? Car il faudrait alors un volume au moins par journée pour énumérer les multitudes d'incidents insignifiants qui remplissent notre existence. À chaque fois un bouquin entier pour raconter une journée. Et on n'aurait pas tout fait, j'en suis sûr. Voilà, quoi d'autre alors ? Mis à part la présence d'arguments, il y a autre chose qui est donné comme un critère du texte dans lequel on sert à convaincre. C'est quoi ? Rappelez-vous ce qu'on a dit pour le premier. Oui.
C'est un raisonnement logique.
Là, tu redis ce que tu viens de dire juste avant. Alors, le raisonnement logique, pour creuser cette idée-là, hein, à partir de là, tu vas relever les connecteurs logiques.
Hein, donc, réfléchir le destinataire plutôt que faire appel par les sentiments.
Oui. D'accord, c'est bien, mais creuse d'abord l'histoire de raisonnement logique en relevant les connecteurs logiques. Alors, qu'est-ce que vous avez comme connecteur logique dans le texte ? Première ligne. en a un, puisque je vous dis première ligne. Alors, c'est pas par élimination, vous avez trouvé quand même. T'es pas loin. T'es pas loin. Oui ? Si, qui formule une hypothèse, hein, le S apostrophe, t'as raison, s'il, si il, hein, et puis il y en a un autre. Comment ?
Non pas.
Non pas, hein, qui écarte une possibilité. Ensuite, ligne 2. Mais, l'opposition. Ensuite, car, bien entendu, hein, une car qui montre quoi ?
L'explication.
Oui, mais on va dire aussi qui marque, parce que qui marque la cause, d'accord ? Mais explication est plus juste, tu as raison. Ensuite, ligne 6.
Pour
qui marque quoi ?
Le but.
Le but. D'accord. Ensuite, ligne 8.
Donc,
d'accord. Voilà, et puis c'est terminé. Hein. Là, vous avez votre livre, sauf peut-être Johan. Il faut aller voir, sauf erreur de ma part, au chapitre 6. Hein. Vous allez un peu avant, au chapitre 6. Alors, vous avez quelque chose qui peut vous intéresser aussi au chapitre 7. Les figures de style, si vous voulez travailler un peu ce domaine, puisque on ne fait pas d'analyse de texte sans connaître un peu les figures de style. Hein, mais là, je ne trouve pas le chapitre 6, et vous l'avez trouvé, c'est
42.
Pas 42. Voilà, vous avez donc ce qu'on appelle ici les liens logiques. Hein, vous avez donc un examen des différents connecteurs logiques, mais vous avez un tableau aussi récapitulatif à la page 45, hein, qui vous donne une petite liste de ce que vous pouvez avoir comme connecteur logique, vous le voyez, hein, donc ça peut vous aider quand vous êtes dans une recherche de connecteurs. Alors, vous pouvez noter sur le cahier, hein, voir tableau page 45 pour les connecteurs logiques, hein, de façon à ce que vous puissiez retrouver rapidement ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin dans un texte argumentatif. Soit pour examiner les procédés de l'auteur, soit pour utiliser vous-même dans un texte que vous voulez argumentatif, pour utiliser ces connecteurs logiques, pour bien montrer que vous avez compris, hein, au correcteur, pour bien montrer que vous avez compris ce que c'est qu'argumenter. Hein. Voilà. On a terminé avec ça, et là, il est déjà super tard. Oui, et on n'a pas répondu à la deuxième partie de cette question-là. Hein. On a dit donc les connecteurs logiques, les arguments, mais il y a autre chose qu'on avait dit sur le premier. On avait dit le premier, il y a l'implication de l'auteur. C'est-à-dire l'usage de la première personne. Là, il se trouve que c'est l'usage de la première personne du pluriel et qu'on n'a pas eu, on reste un peu sur notre faim parce qu'on n'a pas eu d'usage de la première personne du singulier, mais on est bien conscient que quand on veut persuader, on peut utiliser la première personne en disant « je »,« moi », etc. Hein, bien entendu. Hein, et « je » et « tu », puisqu'on veut persuader quelqu'un. Hein, là, on a « nous ». Qui, en quelque sorte, il met « je » et « tu » ensemble. Hein. Néanmoins, dans une forme plus évidente de persuader, c'est « je » et « tu hein. ».« Je veux que tu ». C'est ça, persuader. Hein, « je voudrais aller hein, ».« J'aimerais bien que tu ». ».« Tu me ferais plaisir en ». ».« Tu me hein, ». Vous voyez, dans « persuader », relation entre « toi » et « moi ». Entre vous et nous. Ici, donc, par conséquent, dans le texte convaincre, qu'est-ce qu'on va avoir, quelle personne on va avoir ? On barre le jeu, on barre le tu, qu'est-ce qui reste ? Ben, c'est le il. Hein ? Donc c'est la troisième personne. Est-ce que vous avez un jeu quelque part là-dedans ? Est-ce que vous avez un nous? Si, première ligne. Hein? Non pas à nous montrer la photographie, et aussi à la deuxième ligne. Vous voyez les failles, bien sûr. Ça me permet de vous dire aussi que, bien sûr qu'on vous demandera, comme on vient de le faire, de choisir entre convaincre et persuader, mais dans une argumentation, il est fréquent qu'on utilise les deux choses. Hein? Qu'on utilise les arguments pour convaincre, et qu'on utilise en plus les sentiments. Hein? Vous voyez, on peut utiliser les deux, et les deux peuvent être imbriqués l'un dans l'autre. Si tu veux emporter une idée, eh bien tu vas donner à la fois des arguments et en même temps dire « ça me ferait bien plaisir en plus ». C'est-à-dire mettre, si tu ne fais pas ça, conséquence, donc convaincre, d'accord ? Et puis ça me ferait plaisir. Voilà, là on fait entrer le sentiment. Vous voyez que les deux, ils peuvent... sans problème aller ensemble, même si on doit nous essayer un peu de distinguer les deux notions. J'ai dit qu'on n'aurait pas le temps. On va peut-être l'avoir quand même. Donc un petit texte sur lequel je vous demanderai donc de relire et de réfléchir à ce que vous pourriez en dire. Et comment le commenter? 1, 2, 3. Tout le monde est servi? Non, pas encore. Donc c'est un texte de Herman Hesse qui est extrait de peut-être de son ouvrage le plus connu, le plus célèbre, hein, qui a été publié, alors c'est bien après le romantisme, mais néanmoins Hesse est toujours resté accroché au romantisme. C'est quelqu'un qui a une vie relativement pénible. Et là, le texte, on vous dit 1927. Bon, je vais essayer, il n'y a pas beaucoup de temps, de vous le lire, histoire de peut-être, si possible, le mettre un petit peu en relief. Celui qui a subi les mauvais jours, avec les crises de gouttes, ou ces affreuses migraines qui s'agrippent derrière les prunelles et changent diaboliquement de joie en torture toute l'activité de l'œil et de l'oreille. Celui qui a vécu des jours infernaux, de mort dans l'âme, de désespoir et de vide intérieur, où, sur la terre ravagée et sucée par les compagnies financières, la soi-disant civilisation, avec son scintillement vulgaire et truqué, nous ricane à chaque pas au visage comme un vomitif concentré et parvenu au sommet de l'abomination dans notre propre moi pourri. Celui-là est fort satisfait des jours normaux, des jours coup-ci, coup-ça, comme c'est aujourd'hui. Avec gratitude, il se chauffe au coin du feu. Avec gratitude, il constate en lisant le journal qu'aujourd'hui encore aucune guerre n'a éclaté, aucune nouvelle dictature n'a été proclamée, aucune saleté particulièrement abjecte découverte dans la politique ou les affaires. Avec gratitude, il accorde sa lyre rouillée pour le psaume de louange modéré, médiocrement gai, presque content, avec lequel il ennuiera son Dieu des coups-ci, coups-ça, doux, tranquille, un peu engourdi de bromure, et dans l'air épais et fadasse de cet ennui satisfait, de cette absence de douleur dont il convient d'être grandement reconnaissant, tous les deux, le dieu Kusikusa, qui branle de son chef morne, et l'homme Kusikusa, un peu grisonnant, qui chante un psaume assorti, se ressemblent comme des jumeaux. Bon, vous voyez ce qu'il peut y avoir de désespéré dans ce texte-là. Quand il nous décrit la souffrance de l'horreur du vrai, dont on vient de parler d'une certaine façon, hein, de l'horreur quotidienne, là vous avez qu'à écouter les infos et puis vous l'avez, votre horreur quotidienne, vous êtes servi. Hein, écoutez la radio, lisez les infos sur le net si vous êtes noir. Et on sent sa souffrance à lui, hein, et puis il y a quand même un petit peu l'histoire du dieu Kusikusa et de l'âme Kusikusa, il y a quand même un peu de mépris quand même. Hein. On sent quelque part qu'il préfère souffrir en étant conscient de l'horreur du monde que de s'engourdir dans une espèce de vie sans relief dont nous parlait précédemment la pâleur, hein, de notre vrai, dont nous parlait Vigny tout à l'heure. Hein? Donc voilà, on sent, et on est dans le romantisme, on sent que ces artistes préfèrent avoir mal que d'avoir une vie banale. En gros, c'est ça. Hein? Hein? Ils préfèrent souffrir, au moins quand je souffre, je sens que j'existe. Hein? Tandis que si je suis à moitié endormi, ben, j'existe qu'à moitié. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est d'exister intensément. Je fais le Paris-Dakar, je me tue sur ma moto, je vis intensément. Voilà. Hein? Voilà. Si ça vous tente, je ne vous le conseille pas. Donc peut-être à cet après-midi. Hein? Je n'ai pas donné de groupe de soutien, mais on verra qui a envie de rester de 4 à 5 quand vous serez venu de 3 à 4. Hein? On peut garder tout le monde, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même inviter des copains. Apporter du gâteau à boire si vous voulez. Des chocolats, mais j'en mangerai pas. Vous avez cours là tout de suite ou pas? Là non, pas plus à quel cours? Le CJS, d'accord. Avec le prof, c'est Monsieur Rivière? D'accord. Bon, ben on va voir si les STG viennent. Hein.